Ce sera mis en, peut-être sur le site de la maison de quartier. Mm. Bon, mais je prends. Voilà. Alors, pas d'utilisation commerciale ou autre.
France Culture, non.
Bon, je veux bien essayer, moi. Je... ça vous gêne d'enregistrer ou pas?
Non, c'est simplement que quand on pose cette question-là, c'est parce que derrière...
Oui, non, ce sera mis sur... C'est comme les 42 minutes, vous êtes déjà venu à 42 minutes, Place des Justices. L'enregistrement de l'intervenant, on enregistre l'intervenant, mais pas les questions-réponses qui sont faites après, avec les parents. Voilà. Donc, pour info, tous les 42 minutes sont sur le site du 3 mars. Donc, on peut retrouver un sujet qui nous intéresse, réécouter l'intervenant. Voilà. Bonsoir à tous. Donc on se retrouve là pour une table ronde autour de l'apprentissage de la langue et ses effets sur l'identité. C'est un thème qui était beaucoup revenu dans le collectif qui a organisé les 15 jours cette année. Pour rappel, c'est un collectif qui est composé de bénévoles, de professionnels, de responsables associatifs. Suivant la thématique, nous rejoignent de nouvelles associations. Bon, y a un petit noyau qui reste présent, comme Jean-Claude, qui est là depuis la deuxième édition et qui anime aussi les causeries chaque année. Donc, pour cette table ronde, on a la chance que Delphine Guetta-Budigofer vienne pour la deuxième fois, c'est sympa, maître de conférence en sciences du langage à l'Université d'Angers. Elle nous dira en quoi elle est plus spécialisée. Yves Loiseau, maître de conférence également en didactique des langues à l'Université catholique de l'Ouest. Marie-Noëlle Davy, institutrice retraitée.
Oui.
Et puis après, j'ai demandé à Jean-Claude qu'est-ce qu'il fallait mettre après. Vous étiez en institutrice avec des enfants allophones ou...
On aurait pu dire « est tombé dans l'anglais à l'âge de 14 ans » et n'a jamais cessé de tourner autour de l'anglais.
D'accord. Bon, c'est dommage qu'il soit parti. On avait là un monsieur qui essayait d'apprendre l'anglais d'Harry Potter, en lisant Harry Potter en version originale.
Ah oui.
On aurait sûrement intéressé de le rencontrer. Ben voilà. L'idée, c'est que nos trois intervenants, du coup, prennent un moment pour nous dire un peu, selon eux, suivant leur thème de recherche, ce que ça fait sur un individu, quel que soit son âge, d'acquérir une nouvelle langue qui n'est pas sa langue maternelle. Je crois que c'est ça qui nous avait questionné, tu me corrigeras, Jean-Claude, sur ce qui fait notre identité, est-ce que ça va changer à partir du moment où on va maîtriser plus ou moins bien cette langue, peut-être dans une société qui n'est pas la nôtre. C'est le cas des enfants allophones. Et autour desquels il y a eu, par exemple, cette rencontre entre Delphine et les bénévoles de l'accompagnement scolaire, qui avaient plein de questions à lui poser, des choses à éclaircir. Voilà, donc je vous propose de vous laisser la parole un petit temps chacun. Alors, le temps qui vous sera nécessaire, peut-être... 10, 15, 20 minutes, c'est vous qui... Voilà. Puis après, on échangera de manière assez simple, hein, chacun apportant ses questions.
Ce serait peut-être aussi intéressant, enfin, la question a déjà été posée, que qu'on sache un peu qui
est qui. Oui, peut-être. En prenant la parole, présentez-vous. Là, voilà.
Oui, tout le monde.
Oui. Voilà.
Et puis, les autres personnes,
Oui, c'est pour ça que je pose la question. Oui.
Alors, qui veut commencer? Est-ce que vous savez qui je suis?
Vous n'êtes pas présenté.
Voilà, alors c'est pour ça que je vais le faire tout de suite, voilà. Parce que je parle depuis tout à l'heure. Je suis Cassie Le Fleuic, je suis le référent famille et vie sociale à la maison de quartier. Voilà. Je vous laisse la parole. Si l'un de vous veut commencer, je n'ai pas prévu d'ordre, je n'ai pas prévu de... voilà. Comme je ne savais pas tout sur votre carrière professionnelle, je vous propose que ce soit vous, Marie-Noëlle.
D'accord.
Allez-y.
En fait, moi, je suis partie sur une autre direction parce que je suis partie sur le plaisir que peut donner d'apprendre une langue ou plusieurs langues dans sa vie. Alors, vous voyez, ce n'était pas exactement ce que vous avez énoncé, finalement.
Ça va rejoindre. Hein?
Bon, on va essayer d'arranger tout ça. En tout cas, j'ai fait une expérience cet après-midi. Pour étayer un peu ce qu'on pourrait dire, j'ai cherché des livres avec en fait l'idée de plaisir des langues, intérêt des langues pour l'individu. Je n'ai rien trouvé dans les trois librairies d'Angers. J'ai trouvé des méthodes, mais je n'ai pas trouvé en fait ce que je cherchais, à savoir... un éloge finalement de l'apprentissage des langues. Alors, il y a un livre qui va sortir au mois d'avril. 101 bonnes raisons de se réjouir d'apprendre une langue étrangère. C'est de Béatrice Massini et de Guillaume Long. Voilà. Alors, sinon, Claude Agege avait écrit Le dictionnaire amoureux des langues, mais je ne l'ai pas trouvé non plus. Alors je me suis dit, si ça se trouve, dans notre pays, finalement, les langues, c'est pas si important que ça, fondamentalement.
Dans notre pays.
Et de fait, si on réfléchit, le français, on va en Afrique, bon, on peut parler français, on va au Canada, pas de problème, on va dans tout... On peut aller en Nouvelle-Calédonie, aussi loin que la Nouvelle-Calédonie, on va parler français, enfin bon, bien sûr, mais quand même, on rayonne en fait avec notre langue française. Et je pense que finalement, on n'a pas vraiment mis l'accent sur les langues. Bon. Alors, c'est peut-être un peu faux, parce que depuis 15-20 ans, on l'enseigne maintenant à l'école primaire. Je trouve qu'il est regrettable, par exemple, que la télévision n'offre pas des émissions en anglais, sous-titrées en français, ou bien le contraire, des émissions en anglais, enfin pas le contraire, non, des émissions en anglais, sous-titrées en anglais. Parce que, bon, un pays comme la Suède, où finalement les Suédois savent très bien que on ne parle suédois que chez eux, eh bien, ils ont fait un effort considérable et ils parlent plusieurs langues. Voilà. Mais, en fait, les médias contribuent aussi, contribuent à valoriser l'apprentissage des langues. Voilà. Donc, je suis restée sur un peu un constat de... Oui, on n'est quand même pas si... à l'avant-garde finalement de ce point de vue là. Alors on n'est déjà pas bon en mathématiques, je ne sais pas en quoi on est bon.
On ira apprendre l'anglais à Singapour.
Donc voilà, bon, moi je vous livre ça, cette remarque. Quant au plaisir, moi je l'ai réellement éprouvé, c'est vrai, ce plaisir d'apprendre une langue, même bon, une deuxième, m'intéresser à d'autres langues. Et je trouve que c'est un enrichissement fantastique.
On a l'impression que le français, dans son caractère, n'est pas assez hardi pour communiquer en langue étrangère, voilà. Se lancer dans les... pratiquer les langues dans la rue, n'importe où. On a l'impression qu'il n'ose pas, on a l'impression qu'il... Mais quel que soit son niveau en langue... Il n'y a aucune honte à avoir à se lancer,
Même en n'ayant pas le bon accent, finalement. Oui. Mais on avait fait aussi une expérience à la bibliothèque anglophone. Au moment des accroche-cœurs, on était près de la cathédrale. On avait un petit stand où on vendait des boissons et un plat. Et alors, on parlait anglais aux gens. Mais alors, comme ils n'osaient pas nous répondre, alors qu'ils auraient été capables quand même. Alors, il y a peut-être aussi le fait que, bon, d'accord, on ne met pas l'accent sur les langues, mais peut-être qu'on brime aussi les écoliers qui voudraient, justement, enfin les écoliers ou les lycéens, qui voudraient se lancer.
On les assassine.
pour les assassins.
Oui, c'est clair.
Alors, juste pour rebondir sur le chercher des livres, je n'ai pas trouvé. Pendant toute notre préparation, on a cherché une exposition sur les langues. Pareil, on a fait chou blanc, et partout en France, parce que maintenant, avec Internet, quand quelque chose existe quelque part, on arrive à... Voilà. Donc, il n'y a pas d'exposition sur les langues, sur les langues larges. Hein.
Ouais.
Peut-être vous en connaissez, mais nous, on n'a pas trouvé, en tout cas. Il n'y a pas de support pour valoriser l'apprentissage des langues. Alors, on s'est appuyé sur une opération nationale qui s'appelle « Dis-moi, dis-moi », mais qui concerne que le français. Voilà. Il y a un petit musée des langues à Paris. Qui, bien sûr, n'allait pas nous prêter son fonds d'expo. Hein, voilà. Et quand je dis petit, c'est pas par la valeur. Hein, c'est des petits locaux avec des moyens, somme toute, très limités. Quoi. Donc, l'apprentissage des langues, c'est vrai qu'en France, c'est pas une priorité.
C'est pas quelque chose qui nous
apparaît comme ça... évident. Alors que il y a, on le constate nous quand on accompagne des familles, notamment des familles qui arrivent sur le territoire, l'injonction à apprendre le français, par contre, est très forte. On a un regard sur l'autre, surtout quand il arrive d'ailleurs, s'il ne parle pas français, etc. On est très pressé qu'il sache parce que vraiment. Ça nous dérange un peu, quoi. Je caricature, mais c'est pas loin.
C'est juste.
C'est juste, oui. Puis on ne peut pas le maîtriser quand il perd une autre langue.
Exactement. Et on constate aussi que... On est très content aussi de dire, les enfants apprennent très vite le français, bravo, ça se fait vite, tout ça. Là, puis les français, les parents, ils pourraient faire un effort quand même, et puis venir à tout ce qui est organisé pour qu'ils puissent pratiquer le français, l'apprendre le plus vite possible. Et puis ceux qui y arrivent bien sont très vite valorisés. C'est un peu pour ça aussi, c'est sur ces éléments-là que j'aimerais que vous réagissiez, et sur les effets, alors positifs, négatifs, certainement que c'est un facteur d'intégration fort, mais en quoi aussi ça intervient dans à la fois les relations familiales, la construction de l'identité chez l'enfant, surtout à l'âge où on rentre à l'école, où on apprend une langue, où on apprend à s'exprimer de manière écrite, orale, etc. Voilà. Si vous pouviez nous donner quelques éléments, et puis après, on essaiera d'en débattre.
Non, vas-y, Yves. Non, vas-y.
Bon, très bien. On m'avait demandé de faire une petite présentation, alors je me suis appliqué, j'ai essayé de faire une petite présentation.
Super.
J'espère pas prendre trop de temps, pas trop vous ennuyer avec ma petite présentation. Il y aura deux points dans ma présentation. Le premier point sera apprendre une langue de manière générale, et puis après je verrai ce que c'est que apprendre une langue dans un établissement d'enseignement, parce que l'établissement d'enseignement apporte des choses en plus qui sont importantes également. Alors, de manière générale, apprendre une langue, c'est pas accumuler des connaissances dans la langue, c'est pas apprendre du vocabulaire et apprendre des règles de grammaire, c'est construire réellement la langue. Comme quand un enfant qui naît apprend la langue française avec des parents français, il construit tout seul sa langue. Et donc apprendre une langue étrangère, c'est construire la langue étrangère. L'avantage d'apprendre une langue étrangère, c'est qu'on est confronté à un système qui est différent, qui souvent n'a pas grand-chose à voir avec le système de la langue maternelle. Alors il y a des éléments grammaticaux, par exemple, la langue française par exemple est une langue qui ne s'appuie pas du tout sur le contexte. Dans une phrase française, il faut qu'il y ait tous les éléments pour que l'on puisse comprendre la phrase en la lisant ou en l'écoutant. Et donc on a plein de prépositions, on a des verbes avec des déclinaisons effroyables, où on a plein d'éléments, alors que d'autres langues s'appuie beaucoup sur le contexte, ce qui veut dire que d'un point de vue grammatical, on aura des mots qui sont invariables, et pour comprendre le sens de la phrase, il faudra s'appuyer sur le contexte de production de la phrase pour pouvoir la comprendre. Et donc ça peut déstabiliser des gens, c'est un petit effort qu'il y a à faire en plus. On a des mots en français on a le verbe être par exemple, dans d'autres langues comme le turc, il n'y a pas le verbe être. En russe, le verbe être, on ne l'utilise pas au présent. Dans d'autres langues, l'espagnol, pour le citer, on a deux verbes être, selon la perspective que l'on a de l'action. En français, j'ai parlé tout à l'heure un petit peu, on a des déclinaisons verbales avec des temps passés. On a « il est parti »,« il partait »,« dès qu'il a été parti ». Si je rajoute le passé simple, il est parti, et le passé antérieur, il est parti. On a toute une gamme de formulations pour indiquer des choses au passé. En russe, on a trois temps, le présent, le passé et le futur.
Et c'est plus
donc
simple.
Évidemment, quand on va vouloir transmettre quelque chose, on aura besoin de formuler autrement. Alors, à ces trois temps-là, on a deux autres éléments grammaticaux pour le verbe russe, c'est le perfectif et l'imperfectif. Le perfectif qui présente une action qui est terminée ou qui est unique, alors que l'imperfectif présente une action qui n'est pas terminée ou imperfectif. Et donc pour une même phrase, par exemple, j'ai lu ce livre, on aura soit ya chital etu knigu, soit ya prochital etu knigu. Selon la perspective selon laquelle on voit l'action que l'on a faite. Et donc, évidemment, pour des petits Français qui apprennent le russe, il faut arriver à comprendre ce que c'est que, comme en espagnol, c'est l'état, en russe, qu'est-ce que c'est que perfectif et imperfectif. Ça permet de faire travailler un petit peu les neurones. Ça, c'est pour la partie grammaticale. Pour le lexique, pour le vocabulaire, évidemment, on peut donner des mots à des choses que l'on connaît. On ne peut pas nommer des choses que l'on ne connaît pas. Donc, par exemple, un exemple assez commun, ce sont les fruits. Il y a 50 ans, on ne connaissait pas les kiwis, donc il n'y avait pas de mot. Si on vous présentait un kiwi à un Français, il n'y avait pas de mot pour ce mot-là. On trouve maintenant dans certains magasins d'autres fruits comme la pitaya ou le corossol ou le cajou, on ne trouve pas ici. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas nommer si on les voit parce qu'on n'a pas le mot pour le faire. Alors, il y a des exemples qui sont donnés chez certains anthropologues qui sont un petit peu remis en cause actuellement, qui disaient que les Inuits avaient plein de mots pour la neige alors que nous, on n'a qu'un seul mot pour la neige. Un peu remis en cause. Claude Lévi-Strauss, lui, avait écrit un petit bouquin où il expliquait que chez des peuplades qui mangent des aliments crus, qui ne font pas cuire la viande, il n'y a pas de notion de cuit. Ça n'existe pas, ils ne cuisent pas. Et en contrepartie, également, il n'y a pas de notion de cru, parce que la nourriture, elle est comme elle est. On n'a pas à différencier ce qui est cru et ce qui est... cette manière d'associer les éléments linguistiques, la grammaire, le vocabulaire, la manière de dire, renvoie à des cultures. À des cultures différentes, il y a des références culturelles différentes. En français, par exemple, on a également des registres de langue. On ne parle pas tous de la même manière. Et ça renvoie ça à des niveaux culturels différents. Par exemple, si je dis... ouais, bah, du coup, le directeur, il m'a dit qu'il faudrait que je travaillerais le samedi. Alors là, évidemment, non, quoi. Qui serait un petit peu différent de... en définitive, le directeur aurait souhaité que je travaille le samedi, ce qui, à mon grand regret, n'était guère envisageable. Donc, on a des éléments lexicaux, grammaticaux, une manière de parler, qui renvoient à deux mondes différents. Et il y aura deux perceptions complètement différentes pour un même contenu de message, deux perceptions différentes.
Et deux perceptions sociales totalement différentes aussi à la manière de parler sociale et éducative.
Donc on retrouve ça dans d'autres langues. On a des niveaux de registre dans d'autres langues de la même manière. Donc quand on va apprendre la langue, il faudra pouvoir acquérir cette manière de communiquer. On ne communiquera pas de la même manière, même en anglais, avec une personne de la rue qu'avec Donald Trump.
Quoique.
Donc, comprendre la langue étrangère, construire la langue étrangère est déjà un premier élément qui enrichit notre connaissance du monde et qui nous ouvre vers les différentes manières de faire. Ce qui est important également, c'est que la langue, elle n'existe pas toute seule. Elle est nécessairement liée à une culture. On n'apprend pas la langue sans apprendre la culture. Alors, ce qui est important, c'est d'abord de définir ce que c'est que la culture. Là, ça devient un petit peu compliqué. Alors, quand on a affaire à une culture étrangère, quand on va dans des pays se promener, on a des premiers éléments de la culture. On a des gens qui portent des chapeaux ou qui n'en portent pas, des gens qui mangent du riz ou qui n'en portent pas, qui n'en mangent pas. On a de la musique, des gens qui roulent à droite, des gens qui roulent à gauche. C'est des éléments qu'on voit et on se dit, tiens, c'est un petit peu différent de chez moi. Ça, c'est superficiel. Ce qui est important, c'est qu'il y a une partie que l'on ne voit pas et qui est extrêmement importante. C'est une culture un peu cachée. Ce sont les valeurs qu'est-ce que c'est que la liberté dans le pays, qu'est-ce que c'est que l'égalité dans le pays, c'est les croyances, la manière de considérer les autres, les manières de regarder les autres, la manière de considérer le temps, est-ce que j'ai le temps, est-ce que je redonne rendez-vous, est-ce que vous serez là au rendez-vous, la manière de considérer l'espace, est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'espace ou pas beaucoup d'espace, toutes ces choses-là, on a besoin de les comprendre pour pouvoir communiquer. Si on ne sait pas gérer le temps ou gérer l'espace dans une langue étrangère, on ne pourra pas non plus communiquer dans la langue étrangère. Il se posera des problèmes. La langue traduit parfois des éléments de comportement. Par exemple, au Japon, on a beaucoup de respect vis-à-vis des autres personnes. On fait en sorte de ne pas indisposer les autres personnes. Il y a une notion de face qui est extrêmement importante. Ce qui signifie que, par exemple, les Japonais ne disent pas non. Si vous allez voir un Japonais et vous lui dites « Est-ce que tu pourrais me prêter 10 000 euros parce que je voudrais acheter une voiture ?» Le Japonais ne vous dira jamais non. Il vous dira « Wakarimashita. Hai, wakarimashita. » Qui signifie « Oui, oui, je comprends. Je comprends ta demande. » Ça ne veut pas dire que je vais accepter, mais je comprends ce que tu me demandes. Ou alors il pourra dire également « Kangaite mimashu. » Qui signifie « Je vais réfléchir. » Mais vous êtes sûr que quand il dit « je vais réfléchir », il ne faut pas trop compter sur les 10 000 euros. Vous ne les aurez pas. Mais il ne va pas vous affronter parce que le fait de refuser immédiatement, ça vous fait perdre la face, ça vous indispose. La manière de communiquer avec les autres passe également par tout ce qui est non-verbal. Au Japon, on ne regarde pas systématiquement son interlocuteur dans les yeux. En France, on regarde systématiquement son interlocuteur dans les yeux. Si on ne regarde pas, ça pose un problème. Donc ça, ce sont des éléments culturels qu'il faut prendre en compte dans la communication. Donc il faut apprendre quand on apprend la langue étrangère. Au-delà de la culture, des connaissances culturelles qu'on peut avoir sur les connaissances et les compétences de culture, il y a ce qu'on appelle l'interculturalité, la dimension interculturelle, qui, elle, c'est pas une comparaison entre les cultures. C'est pas une comparaison pour dénigrer l'autre culture, pour dire « Ah, chez nous, on fait ça, c'est vachement mieux que ce qu'ils font ». L'interculturalité, c'est une comparaison pour enrichir la propre connaissance que j'ai de ma culture. L'interculturalité, c'est le développement d'un savoir-être, c'est le développement d'un retour sur soi. Parce qu'on comprend qu'il y a d'autres manières de faire, on va relativiser ce que soi-même l'on fait lorsque l'on communique et lorsque l'on se comporte. L'interculturalité, le développement du savoir-être, c'est apprendre à être tolérant et à comprendre l'autre. Alors déjà, vous voyez l'avantage qu'il y a à devenir tolérant et à comprendre l'autre en termes de personnalité, en termes d'identité, en termes de comportement. Ce qui est important, c'est que l'autre, si je dois être tolérant vis-à-vis de l'autre, il ne faut pas considérer que l'autre, c'est celui qui habite à 3000 km de chez moi, qui parle chinois ou qui parle une autre langue étrangère. L'autre, c'est celui qui est à côté de moi. Et donc, la culture que j'évoque quand je parle de culture étrangère, c'est pas nécessairement la culture du petit chinois. La culture, ça peut être la culture du petit français qui est à côté de moi et qui éventuellement, qui nécessairement est différent de moi. Parce qu'il n'a pas la même manière de penser, parce qu'il n'a pas la même manière de se comporter, parce qu'il a physiquement éventuellement des différences avec moi, peut-être qu'il n'a pas de barbe, malheureusement. Et donc, connaître l'autre, communiquer avec l'autre, ça passe d'abord par communiquer avec mon voisin. Et ça, c'est extrêmement important, c'est ce qu'il faut faire comprendre aux enfants, quand on enseigne les enfants, c'est que l'autre, ce n'est pas le petit chinois, c'est le voisin. Et ça, c'est extrêmement difficile. Il faut se battre tous les jours pour être tolérant. Quand je rencontre quelqu'un, il faut systématiquement que je me dis bon d'accord c'est une femme mais je vais oublier ça et je vais aller voir plus loin si on peut quand même faire des choses. Oui d'accord il est noir mais c'est pas grave, peut-être qu'on arrivera quand même à travailler ensemble. Et ça il faut le faire tous les jours parce que tous les jours on rencontre des gens qui ne sont pas comme nous physiquement, mentalement également, ils n'ont pas la même manière de fonctionner. Moi j'ai des problèmes avec certains de mes collègues parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière et donc quand on est en réunion on ne comprend pas les choses de la même manière et il faut que je m'adapte, enfin, que j'accepte que l'autre présente les choses à sa manière avant de pouvoir interagir. Et ça c'est extrêmement difficile.
dans le milieu du travail, de ces pires, ces problèmes-là, parce que c'est une collectivité imposée plutôt que proposée. Alors, on a des différences de tempérament, des différences de comportement et même des différences sociales. Et là, il y a plus de conflits dans le milieu du travail, je pense, que dans le milieu extérieur où on choisit ses partenaires.
Oui, mais dans le milieu social, vous rencontrez tous les jours des gens que vous n'avez pas réellement choisi, avec qui vous devez interagir. Le problème du travail, c'est que vous rencontrez les mêmes personnes tous les jours.
Voilà.
Alors que dans la société, Exactement. Vous les voyez un jour, après vous les voyez.
Exactement.
Donc, quand on apprend la langue étrangère et quand on développe un savoir-être interculturel, on apprend à devenir autonome, on apprend à utiliser son cerveau, on apprend à avoir des idées propres et on apprend à devenir autonome dans son comportement. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'était ma première partie. J'en arrive à ma deuxième partie sur apprendre une langue dans un établissement d'enseignement. L'avantage de l'établissement d'enseignement, c'est que les enfants ou les adultes ne sont pas seuls dans leur apprentissage. Ils sont guidés, on les aide, on leur montre. Et donc, on essaie de développer chez les enfants ou chez les apprenants en général une certaine autonomie. Autonomie langagière si on apprend la langue, ou autonomie plus générale si on apprend d'autres matières comme les sciences ou les mathématiques. Il y a trois grands aspects au développement de l'autonomie. La découverte, le travail en groupe et puis la réflexion sur l'apprentissage. La découverte, on a ça par exemple en SVT, en sciences au niveau collège. Les enseignants de SVT, ils ne présentent pas les choses de manière littérale. On apporte de la terre et puis on mélange avec de l'eau et puis on voit ce qui se passe. On fait travailler les élèves et on leur dit bah, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que l'eau coule ou est-ce que l'eau ne coule pas ? Voilà, on apporte du vinaigre, des poissons ou autre chose et puis on fait découvrir aux enfants les phénomènes qui existent en SVT. C'est la même chose en langue. Quand on veut enseigner une langue, on n'apporte pas des listes de grammaire et puis des listes de vocabulaire. On dit apprenez ça, après vous saurez parler la langue. On leur fait découvrir le système, on leur apprend à construire eux-mêmes la langue. Comme les enfants, je vous l'ai dit, qui ont 2 ans et qui écoutent leurs parents et qui petit à petit apprennent la langue. Le travail en groupe, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On travaille très très souvent en groupe dans les collèges, au primaire, dans les collèges et lycées, parce que c'est la base de l'apprentissage. Si on est tout seul dans son coin, c'est difficile d'apprendre. On apprend mieux avec les autres, et puis on apprend une autre manière de voir les choses, une autre manière de faire. Les autres ont un cerveau qui est différent, et donc ils ne voient pas les choses comme moi, et donc ils m'aident à comprendre ce que je ne comprends pas. Et donc c'est extrêmement utile. Et certains enfants sont assez réticents à travailler en groupe, parce que c'est toujours embêtant, l'autre il n'est jamais d'accord avec moi. Mais il faut imposer aux enfants à travailler en groupe. Ils en auront besoin de toute façon plus tard quand ils vont travailler et quand ils devront être dans une entreprise et à travailler avec d'autres. Troisième élément de l'autonomisation, c'est la réflexion sur ce qui se passe. Souvent, on demande aux étudiants de réfléchir à ce qu'ils font. Quand on fait une expérience, on leur demande de bien vérifier les étapes et bien comprendre pourquoi est-ce qu'on fait une étape avant une autre. Quand on propose une activité, on demande aux élèves à comprendre quel est le sens de l'activité, à quoi ça sert pour ma progression. On fait des retours sur ce qui a été fait dans la salle de classe. Là encore, on amène l'étudiant à se saisir de son apprentissage et à bien comprendre quels sont les objectifs et comment il fait pour apprendre. Ce qui est bien en langue, c'est qu'il y a moins de limites qu'en mathématiques ou en sciences. Parce que en langue, je peux prendre le prétexte que c'est quelque chose qui est étranger. Et donc, dans cet étranger-là, il y a des comportements qui ne sont pas ceux qu'on a en France. Et donc, on peut faire des choses qui sont complètement inhabituelles. En mathématiques, les mathématiques en Chine ou en France, c'est quasiment la même chose. Mais en France, on ne se comporte pas de la même manière qu'en Chine. Ça veut dire que quand j'ai des étudiants japonais qui viennent chez moi pour apprendre le français, on fait des activités pour apprendre à regarder l'autre. On fait des activités pour apprendre à dire non. Parce que c'est comme ça en France. Si vous voulez communiquer en français, il faut regarder l'autre. Il faut dire non. Il faut structurer votre discours. Et donc, en langue étrangère, on peut se permettre de faire des choses un peu extravagantes si on en a envie. On peut travailler beaucoup sur le corps, on peut travailler sur le non-verbal. Et donc, on a moins de limites. Ce qui permet de développer chez l'apprenant des compétences qu'il n'aurait pas nécessairement. Ces compétences-là, ces stratégies-là, l'avantage, c'est qu'elles sont transférables de la langue étrangère à la langue maternelle. Quelqu'un qui aura appris à utiliser son corps pour communiquer, peut-être qu'il pourra l'utiliser dans sa langue maternelle ensuite. Quelqu'un qui apprend à écrire une lettre de motivation dans la langue étrangère, peut-être qu'il pourra transférer cette compétence en langue française ensuite s'il est français. Et donc il y a des transferts de connaissances, des transferts de compétences qui sont possibles d'une langue à l'autre. Ce qui est fait dans les écoles, ça vise à faire en sorte que l'élève, que l'enfant devienne autonome. Autonome dans ses apprentissages, on fait en sorte qu'il se débrouille tout seul pour apprendre. Autonome dans ses relations sociales, on fait en sorte qu'il arrive à communiquer avec les autres pour travailler avec les autres. Et ce qui est important, c'est qu'on considère l'enfant, l'élève, l'apprenant, comme une personne qui est en construction identitaire. Et ce qu'on fait pour lui, c'est l'aider à comprendre les choses pour qu'il arrive à se construire lui-même. Et ça, c'est un des objectifs de l'école, c'est réellement à faire en sorte que l'élève construise sa personnalité. Et la langue étrangère, l'enseignement de la langue étrangère, participe beaucoup à cette particularité de la construction identitaire. Je vais terminer avec ça. Apprendre une langue étrangère, développer un savoir-être interculturel, participe à la construction de la personne, participe à la construction identitaire. Ça permet de devenir autonome dans son apprentissage, ça permet de devenir autonome dans ses relations sociales, mais ça permet de devenir autonome dans sa vie quotidienne. Ça permet de mieux comprendre les autres, mon voisin notamment, et ça permet de mieux vivre dans la société dans laquelle on vit, dans la société d'où on est originaire. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Delphine, vous voulez prendre le relais?
Mais ils ne vont pas d'abord poser. Après, vous n'allez plus penser à tout ce qu'il a dit.
Ah bah, on propose ce que vous voulez.
Oh non, mais moi, je veux bien poser enchaîner, mais après, on va remettre une autre couche. Et
c'est comme on veut. On peut décider de poser tout de suite des questions à Yves.
Non, peut-être que vous avez des questions à Yves quand même. Non, moi, je veux bien enchaîner. Pendant qu'on y pense.
Allez-y.
Mais je pense quand même que ça
suffit. Je pense que dans ce que vous décrivez, par rapport à la façon dont l'enseignement de la langue se fait, vous parlez de relations entre les autres, vous parlez de travail de groupe, de tout ça. Je trouve que la façon dont les langues elles sont apprises chez nous, c'est pas toujours ça. C'est pas toujours de l'échange, c'est pas toujours de l'oral, c'est pas toujours... c'est très grammatical, exercice, machin truc. Et dans tout ce que vous dites du développement de la personnalité, c'est beaucoup de communication, de se confronter à l'autre pour se grandir, pour... c'est une réflexion.
C'est pas toujours le cas, mais on tend vers cela. Un objectif de l'école, c'est pas de faire en sorte que les enfants accumulent des connaissances. On vise bien le développement de la personne. Et les enseignants essaient de faire en sorte que les élèves travaillent en groupe, qu'ils se développent, qu'ils communiquent. On a au lycée, par exemple, les TPE, les travaux personnels encadrés. Mmh. Et là, on les amène à travailler de manière à plusieurs, sur plusieurs disciplines à la fois. Et c'est un exemple que j'aime beaucoup, parce qu'on a vraiment un travail où l'étudiant doit décider lui-même de l'organisation de ces TPE. Et c'est quelque chose qui est extrêmement positif, il me semble. Et on tend quand même à faire en sorte que, en langue étrangère notamment, les enfants communiquent, qu'ils comprennent les textes qu'on leur présente, qu'ils arrivent à avoir des idées. C'est quand même un des objectifs que l'on a, il me semble. Ça marche pas tout le coup. Hein. Moi, j'étais en lien avec une collègue l'année dernière, à distance, quand on travaillait sur un MOOC. Et elle est prof d'anglais et elle intervient dans un collège et elle accueille des étudiants allophones, des enfants de migrants. Et elle disait, moi j'ai une heure de cours, ma première demi-heure c'est d'abord à canaliser les enfants, à faire en sorte que tout le monde soit à peu près calme, que tout le monde ait une tâche, et après il me reste une demi-heure pour faire de l'anglais. Mais c'est extrêmement compliqué parce que chacun a un parcours personnel extrêmement complexe et chacun a des traumatismes et il faut gérer tous ces traumatismes-là. C'est vrai qu'on n'a pas que des classes modèles.
Donc c'est un double travail en fait. Hein.
C'est font deux emplois.
Essayer de maîtriser, calmer et puis après démarrer dans le cours. Quoi.
Mais dans nos, ça, dans nos collèges et lycées d'Angers, la plupart du temps ça se passe plutôt bien. Quoi. Oui.
Allez.
J'y vais, je surveille mon temps, pas que. Bon, ben, il y a des choses... c'est bien, parce que ça fait le lien. En fait, Yves, il a parlé, en fait, d'une situation d'apprentissage de langue étrangère, je pense. Hein, tu as évoqué ça. Et moi, en fait, je vais mettre ça en perspective avec ce qu'on appelle le français langue seconde, en fait. C'est pas tout à fait la même chose, en fait. Et c'est bien, parce que ça va être complémentaire. Mmh. Et le français langue étrangère, il l'a déjà expliqué, Yves, hein, c'est quand on apprend le français, on ne va pas utiliser des grands mots, mais on apprend une langue, alors on peut apprendre une langue, on apprend l'anglais en France par exemple. Hein. Les élèves là dont on parle, ils apprennent l'anglais 3 heures par semaine, voilà, ou une autre langue et en milieu guidé avec un prof. Alors que le français langue seconde, c'est des enfants qui apprennent, ce que je disais tout à l'heure, désolé, je répète, c'est des enfants qui apprennent le français en France. En fait, ils sont ce qu'on appelle en situation d'immersion. Et ce n'est pas les mêmes enjeux, en fait. Ce n'est pas les mêmes enjeux. C'est-à-dire que quand on apprend l'anglais en France 3 heures par semaine, oui, ça apporte plein de choses. Et il l'a dit, ça apporte plein de choses. Mais ça n'a pas les mêmes enjeux. Après, ils rentrent chez eux, voilà, ils sont au milieu d'autres Français qui apprennent l'anglais. Et même si je suis à l'Alliance française à Cambridge et que j'apprends le français, je le fais 3 heures par semaine parce que je suis retraitée et que je veux aller m'acheter une maison en France. Voilà, c'est pour le plaisir. Il n'y a pas d'enjeu très important. Et au niveau cognitif, ça va, quoi. Je rentre chez moi, je n'ai pas plein d'anglais en rentrant le soir, ou les Chinois qui viennent chez nous, qui sont à la fac, qui entendent du français toute la journée. Et c'est dur, quand même, à la fin de la journée. Je leur dis toujours, vous devez avoir mal à la tête, quand même. Hein. Et on leur parle vite, et ce n'est pas adapté. Alors que là, moi, ce que je voulais vous partager avec vous, c'est... On a posé la question, apprendre et parler une nouvelle langue, ça change quoi? Ben moi, je voulais vous parler des enfants migrants, en fait, de se mettre à leur place. Donc, voilà, eux, ils se retrouvent en situation de français langue seconde. Donc, eux, ils vivent des choses pas forcément faciles, parce qu'on leur demande, on les met dans une situation qui n'est pas facile. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur Louise Daben, là, qui est une sociolinguiste. Elle a défini plusieurs langues, en fait, hein, le répertoire langagier. Elle parle du parler vernaculaire, c'est-à-dire c'est le premier contact que vous avez avec le langage. Hein. Et elle parle aussi de langue de référence. C'est la première langue dans laquelle on rentre dans l'écrit. C'est l'école, la langue de l'école, quoi, de scolarisation. Et puis après, elle parle aussi de... Alors, il y a des fois des pays où la langue de vernaculaire, c'est pas la même que la langue de référence. Hein. Je sais pas si vous avez peut-être des exemples à donner. Hein. Par exemple, moi, l'exemple que je donne, c'est au Daghestan. La langue, c'est le koumik, et la langue de référence, c'est le russe. Donc, voilà, on voit que ça, c'est pas toujours... C'est pour ça que Louise Daben a dit que c'est pas simple, les langues. En fait, il y a plein de choses. Et moi, j'aime bien aussi parce qu'elle parle de la langue d'appartenance. On pourrait dire une langue de cœur aussi, la langue, on construit son identité. Ça, c'est important. Elle dit ça. C'est la langue, il l'a dit, c'est l'identité de l'individu. C'est fondamental, en fait. Hein. La langue, c'est lié à la culture et tout ça. Et puis, on voit aujourd'hui que, par exemple, vous voyez bien les Corses. Dans les revendications des Corses, il y a de parler la langue, parce que c'est mon identité. Les Catalans, c'est pareil. Dans la somme des revendications, il y avait le catalan, quoi. Hein. Donc... la langue, c'est vraiment mon identité. Et donc, ça, Yves, il l'a bien expliqué. Hein. La langue, c'est pas seulement l'acquisition de savoirs grammaticaux. Il l'a très bien expliqué. Je vais pas revenir. T'as donné plein d'exemples. Donc, que la langue, c'est aussi acquérir, c'est aussi un nouveau monde à acquérir. C'est une culture qui est pas forcément la sienne. Donc, et puis... aussi, on peut créer des langues, mais tu l'as dit, on peut créer des langues aussi pour se créer un groupe, une communauté. Moi, j'aime bien donner cet exemple. Si je vous dis « ce boss va dropper du stuff », ça vous dit quoi ?« Ce boss va dropper du stuff ». Ça, c'est un langage, une langue identitaire qui a été créée par un groupe.
Un mélange d'anglais et de français.
Ouais, c'est ça. Mmh. Mais c'est dans un contexte, c'est un langage qui a été créé par une catégorie de français, enfin, même dans le monde, c'est transversal.
Les geeks.
Ils sont créés, les geeks, voilà, c'est ça, c'est le langage des jeux vidéo. Mmh. Donc ce boss va dropper du stuff. Moi, je comprends pas bien quand on me le dit. Donc voilà, c'est aussi créer une identité, un nouveau langage. On voit qu'on peut faire du ce qu'on appelle du code switching. Je prends un petit peu de ci, un peu de ça, et puis après, on ne comprend plus, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire donc pour ces enfants de se retrouver dans une situation de langue seconde, et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour eux? C'est la question qu'il faut se poser. Bah, c'est-à-dire que eux, le français, c'est un double statut. Hein. Donc, non seulement c'est la langue de scolarisation, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas le français, ils ne vont pas réussir, et il faut qu'ils le fassent très vite, ce qui est assez problématique, parce que la langue, ça ne s'apprend pas comme ça, de manière, c'est un processus à long terme. Hein. Il y a plein de chercheurs qui ont montré que c'est long hein, pour apprendre une langue. Nous, il nous faut du temps pour apprendre notre propre langue maternelle avec nos parents. Après, à l'école, il y a d'abord l'oral, d'abord l'écrit. Et là, ces enfants qui arrivent dans le système scolaire, on leur demande d'apprendre, de passer d'un niveau à un très vite. Ils sont avec ces autres élèves. Et c'est aussi la langue de socialisation, parce qu'il va falloir que je me fasse des amis et que je rencontre les autres. Donc, il y a ça. Et sans cette maîtrise de la langue de scolarisation, il n'y aura pas de réussite. Donc, il y a un enjeu fort. Ce n'est pas seulement ponctuel. C'est leur vie qui est en jeu et c'est leur orientation. Parce que l'école, si tu ne maîtrises pas la langue, tu ne vas peut-être pas aller en bac, tu vas peut-être pas aller en seconde générale. Mais c'est dommage parce que c'est ce qu'ils voulaient à la base. Et l'école, elle dit, ben non. Alors ça, c'est problématique aussi. Même si dans les textes officiels, on dit que ben, normalement, non, hein, la maîtrise de la langue, ça ne doit pas être une condition. Et souvent, on me dit, oui, mais ces élèves, c'est super, ils sont en immersion, donc ça va aller très vite. Eh bien non, ils ne sont pas en immersion, ils sont en submersion. Il y a plein de chercheurs qui ont montré ça, ils sont en submersion. Hein. C'est comme si vous mettez quelqu'un dans une piscine, vous savez, il y a les maîtres nageurs, ils vous disent, vous ne voulez pas nager, ben, à un moment donné, on va vous faire sauter au milieu du bain, puis on va voir ce qui va se passer. Ben, il y a beaucoup d'élèves allophones qui coulent. Il y en a qui nagent, on l'a dit, d'élèves excellents qui ont été bien scolarisés, qui arrivent bien à faire les transferts et tout, qui sont à l'aise, qui prennent vite leur marque dans la classe, mais il y en a beaucoup qui coulent au fond. Ben oui, parce qu'on les a mis en situation de submersion. Et puis, on a parlé de l'école, vous vous retrouvez, je ne sais pas moi, vous êtes à peine débutant en chinois, vous êtes ce soir, moi, même moi, en anglais, avec des locuteurs anglais, je commencerai déjà à paniquer, parce que je suis une bonne française, j'ai toujours peur de m'exprimer en langue étrangère, donc vous imaginez, vous, eux, à leur place, ils sont au milieu de plein de locuteurs natifs du français, ils sont les seuls là, ils sont 30, et il faut qu'ils prennent la parole, donc avec un regard qui n'est pas toujours bienveillant de la part des adolescents, autres. Moi je vous parle des adolescents.
Et je pense que, aussi que papa et maman ne parlent pas cette langue, et c'est un réel problème aussi, parce qu'on rentre à la maison, et on va s'exprimer avec les parents différemment, et papa et maman n'arriveront peut-être jamais à parler la langue du pays.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est important qu'ils aient toujours le contact avec la langue de cœur, justement.
D'origine.
Ouais, oui, il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, des chercheurs qui disent que c'est important qu'ils entendent leur langue. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'identité? Parce que c'était le sujet aussi. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'identité de se retrouver dans une telle situation? Eh bien, ce sont des élèves, on dit qu'ils sont vulnérables. Vulnérables parce qu'ils sont dans des situations d'exil difficiles. Il y a des mineurs isolés de plus en plus qui ont traversé la moitié de la planète tout seuls dans des conditions extrêmement dures. Il y a des fois des récits de vie que moi j'ai eus qui sont terribles. Hein. Ils ont 15 ans et ils ont des vies, enfin c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais c'est une réalité. Donc ils sont déjà confrontés à tout ça. Et donc cette fonction identitaire en fait de la langue, elle est très importante. Elle est importante pour tout le monde parce que c'est notre langue et elle est importante, mais pour eux encore plus quoi, parce que c'est le lien avec leur pays d'origine qu'ils ont quitté et qu'ils ont été obligés de quitter. Et on dit, il y a aussi un nombre de chercheurs aussi qui montrent que cette question de l'identité, elle est importante au moment de la puberté aussi, quand on est adolescent, parce qu'on se construit, et c'est la construction, elle passe aussi par la langue et par cette culture, et donc ça aussi ça pose problème. Et j'aime bien les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Pavlenko, qui montre que apprendre une langue aussi pour beaucoup de gens, mais pour eux en particulier, c'est d'abord un stade de perte continue. On perd beaucoup de choses, on perd des repères. On doit aussi se refaire. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça, quand on parle une autre langue, si on veut vraiment avoir l'accent, il faut faire un effort et on n'a pas forcément la même voix. Et ce n'est pas évident en fait, on est une autre personne, il faut accepter ça. Et elle dit qu'il y a une perte de beaucoup d'éléments de perte, il faut accepter ça. Et après, après, une fois qu'on est, on a passé cette série de pertes, eh ben, il va y avoir le stade de la reconstruction. On va pouvoir se reconstruire dans cette langue, s'identifier à cette langue. Et ça, il faut qu'ils le fassent. Et Marie-Rose Moreau, elle parle du processus de transculturalité, hein, c'est-à-dire, c'est l'ethnopsychiatrie, c'est je suis coincée entre deux cultures et il faut que je me positionne par rapport à ça. Et ça, c'est le processus d'acculturation, en fait, hein, qui a été défini. C'est-à-dire que, eh bien, il faut que j'arrive à me construire à partir de ma propre culture et de l'autre culture. Le problème aussi, c'est que l'école, aujourd'hui, elle ne laisse pas forcément beaucoup de place à la langue des enfants. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est une école qui est très monolingue. On est des monolingues, les Français, hein, vous l'avez dit, hein. On n'est pas une école, on n'est pas une société plurilingue, donc le français, c'est l'unique référence, donc il n'y a pas beaucoup de place pour eux. Bon, il y a des didactiques qui essaient de mettre ça en place, hein, on le sait, qui essayent, mais ça prend très mal en France, parce qu'il y a ce monolinguisme de l'école française, en fait. Et il y a Jane Arnold aussi, qui travaille sur la dimension affective dans l'apprentissage des langues, qui montre, et moi j'aime bien aussi, elle dit que le choc culturel... C'est pas seulement un mal-être ponctuel, ça peut être aussi une maladie physique. C'est-à-dire que il y a des enfants qui peuvent créer aussi des maladies physiques. Et c'est l'ethnopsychiatrie de Marie-Rose Moreau. Elle a beaucoup d'enfants migrants qui sont en consultation d'ethnopsychiatrie parce que il y a quelque chose, un problème au niveau de ce choc culturel, de cette langue qu'on veut pas apprendre, de ces conflits de loyauté entre l'école de la maison, l'école de la... Et tout ça, et ils sont perdus par rapport à ça. Ils ont besoin de verbaliser, de conscientiser tout ce qui se passe. Ils ont besoin de l'aide d'un professionnel. Donc voilà, et aussi dans l'engager aussi, c'est que il y a aussi ce phénomène que Vogel il appelle l'anomie, c'est-à-dire qu'on peut être coincé, cognitivement, c'est-à-dire qu'on peut avoir progressé et à un moment donné, on peut régresser parce que ça va pas quoi au niveau de la construction identitaire. Et voilà, donc c'était ça que je voulais partager avec vous, vous dire que apprendre une langue, c'est pas toujours facile. En tout cas, dans ce contexte-là, ça l'est pas, quoi. Ça peut, ça. Il y a des enfants, on l'a dit, qui réussissent bien, mais la plupart d'entre eux, quand même, on leur demande des choses extrêmement difficiles, que ce soit sur le plan cognitif, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel. Et voilà, et ça a des conséquences, et on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on leur demande, quoi. Voilà.
On a unifié la France. En disant au petit breton, il est interdit de parler breton.
Bien sûr.
Et de cracher par terre.
Et dans le sud-ouest, on a aussi réprouvé l'occitan, en fait.
Bien sûr.
C'était vraiment des mesures coercitives, là. Mm-hmm.
Je me demandais si ce que vous dites là, donc ils sont quand même des constats, est-ce que ça fait évoluer les positions des enseignants, des encadrants,
non,
choses comme ça, parce
qu'on...
Je peux intervenir?
Oui, bien sûr. Moi, j'étais prof à l'ESTUA, donc l'université d'Angers aussi, enfin, je suis à la retraite. Mais je me suis occupé de ces prêts des Chinois, parce qu'on a une grosse colonie de Chinois. Et j'ai toujours été impressionné par le fait que ils étaient en classe comme tous les autres, les cours comme tous les autres. Et on attendait d'eux exactement les mêmes choses que les Français qui passaient leur maîtrise. Alors moi, je me suis coltiné des mémoires de maîtrise, maintenant c'est de master, mais il fallait tout réécrire. Et je comprenais qu'il fallait tout réécrire. C'est pour ça que j'acceptais de les suivre, parce que je me disais, vous parliez de submersion, mais ils étaient complètement largués. Et on était obligé de reprendre phrase par phrase, parce que en plus de ça, ils écrivaient en chinois, ils mettaient ça ensuite dans le traducteur. Et le travail, c'était de savoir ce qu'ils avaient voulu dire à travers ces mots français qui n'avaient ni queue ni tête. Mais il y avait quand même une idée derrière. Alors, c'est un temps énorme. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais à ce jour, l'université n'est pas prête à mettre sur pied un système parallèle pour faciliter l'apprentissage du français à tous ces gens dont on exige qu'ils aient le même niveau que les étudiants français, quoi. Moi ça me fendait le cœur de voir ça, je veux dire, en toute honnêteté, parce que je savais qu'ils auraient beaucoup de mal à aller jusqu'au bout. Et pourtant, il fallait qu'ils y aillent.
Mais le cas des Chinois n'a pas grand-chose à voir avec le cas des enfants qui migrent en France. Les Chinois, ils viennent ici, ils savent à peu près comme
oui,
quel sera
sûr,
leur vécu. Ils n'ont pas de problème psychologique grave, alors que les enfants de migrants, eux, se retrouvent dans des situations catastrophiques.
Oui, bien sûr.
Ils ont des séquelles psychologiques qui sont extrêmement difficiles à résoudre. Oui. On les déracine réellement et ils sont réellement perdus, pas seulement à langue étrangère, partout. Ils sont perdus partout.
Oui.
Donc, les Chinois, ils sont déjà privilégiés par rapport aux...
Oui, mais je suis d'accord. C'est mais n'empêche qu'il y a aussi des cas psychologiques. Mmh. Et oh, les Chinois, non, les règles même, direction la Chine, tout de suite.
Mais pour répondre à votre question par rapport à l'école, moi, je pense que non, que l'école ne fait pas suffisamment... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de discours, de beaux discours, et qu'après, dans la pratique quotidienne... Ça repose beaucoup sur la volonté des enseignants, mais les moyens ne sont pas mis en œuvre. Et moi, je trouve qu'il y a même des dégradations.
La volonté ou même les connaissances, peut-être aussi.
Oui, voilà, la formation initiale et continue des enseignants. Il faudrait mettre beaucoup, il faudrait mettre le paquet par rapport à ça. Et je pense que ce n'est pas le cas. Et oui, et puis moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à l'école inclusive. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vraiment de dire que c'est l'école qui s'adapte à l'enfant et ce n'est pas l'enfant qui s'adapte à l'école. Moi, je trouve ça très bien, l'école inclusive. Mais à condition qu'on y mette les moyens, qu'on forme les enseignants. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a des syndicats, il y a des, à l'intermédiaire de syndicats, il y a des enseignants qui crient au secours parce qu'ils sont démunis. Dans leur classe, ils se retrouvent avec un élève en situation de handicap, un élève 10, un élève allophone, un élève hyperactif, et ils n'en peuvent plus, quoi, parce qu'ils n'arrivent plus à gérer cette diversité, cette altérité, tu disais, dans cette classe-là. Pédagogiquement, ils n'y arrivent plus. Et voilà, et pourtant, c'est l'injonction forte de l'inclusion, qui est un très beau, qui est très bien. L'inclusion, c'est une belle idéologie.
Avec d'autres moyens.
Mais le problème, c'est que, voilà, moi, je crie toujours en disant au secours, parce que les élèves allophones, quand on les voit, ils sont toujours en souffrance à l'école. Et on ne peut pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas apprendre quand on n'est pas sécurisé affectivement. Ça, aujourd'hui, toutes les études le montrent. Catherine Guéguen, là, qui a beaucoup de bouquins, là, qui est dans les neurosciences affectives et sociales, elle montre au niveau du cerveau. Au niveau des neurosciences, que si on n'est pas sécurisé affectivement, on ne peut pas apprendre. Donc si vous êtes en violence, si vous êtes en souffrance, vous n'êtes pas en état d'apprendre. Et voilà, donc moi j'ai l'impression d'être toujours la râleuse de service, toujours crier au secours. Mais voilà. Moi,
Après, il y a une autre dimension aussi, enfin, je trouve, chez les enfants qui sont migrants ou d'une première génération d'arrivants, et quand ils possèdent la langue française plus vite que leurs parents, ça les met dans une situation si difficile d'avoir à traduire pour leurs parents, d'avoir ça c'est difficile pour un enfant aussi de passer sur un registre où la génération est
Je ne sais pas qui parlait de l'enfant qui devient parent de ses parents de ce fait.
Oui,
c'est lui qui va traduire.
Il y a quand même une dimension comme ça
qui est dure, bien sûr. Mais une des pistes, et moi je suis Yves à parler de l'interculturalité, et je l'ai bien présentée, vraiment, et je pense que ça serait de mettre aussi le paquet sur une éducation interculturelle, mais vraiment, quoi. Je pense que ce serait vraiment une clé, ça, pour accepter l'autre, en fait.
C'est quelque chose qui est très, très difficile à mettre en place.
Je sais.
Les gens ne sont pas formés, les enseignants ne sont pas formés du tout à l'interculturalité. Ce n'est pas du tout évident de mener des activités interculturelles.
Tout à fait.
Il n'y a pas d'évaluation des activités interculturelles, donc on ne sait pas trop ce qui a été fait, on ne sait pas trop quels bénéfices les élèves en tirent. Et donc c'est un peu embêtant dans l'éducation nationale de ne pas savoir quels sont les résultats de ce qu'on fait avec.
Les enseignants, les parents qui choisissent de mettre leurs enfants là parce que ce n'est pas trop coloré ou autre, ça ne favorise pas non plus.
Ouais. Mais de toute façon, même dans les écoles où c'est pas trop coloré, il y a quand même des différences. Les enfants sont pas tous identiques.
Oui.
Ils sont tous différents les uns des autres. Et donc, déjà, il y aura un travail à faire dans ces écoles-là. Il y a des expériences en activité interculturelle. On peut amener à mettre des jeux en place où on va créer, par exemple, 3 ou 4 équipes. Et puis, on va faire en sorte que l'activité, le jeu qu'on met en place sera toujours défavorable à une équipe. Et donc, cette équipe-là, elle va vivre la discrimination parce que pour des raisons injustes elle n'aura pas le droit de gagner donc elle va réellement vivre, et on voit les personnes qui participent à cette activité là ne pas comprendre pourquoi est-ce que eux sont discriminés, pourquoi eux ils ne réussissent pas comme les autres. Et donc ça, on peut le mettre dans une école avec que des gens qui ne sont pas colorés. Et les gens pourront réellement prendre conscience de ce que c'est que la discrimination, quand elle est complètement infondée.
Mm-hmm. Est-ce qu'aux États-Unis, on est plus évolué pour tout ça? Est-ce qu'on est plus avancé par rapport à en Europe?
Il n'y a pas de raison qu'ils soient plus évolués que nous.
Mm-hmm. Sauf que, quand même, ce qu'on voit, les classes... il y a plusieurs ethnies finalement. Quand on voit les classes aux États-Unis, il y a des petits portoricains, il y a des petits mexicains. Je dis ça, j'ai pas vraiment vu des classes, et je me réfère à des émissions que j'ai pu voir sur les écoles, quoi. Mais j'ai quand même cette impression quand même qu'il y a des visages très différents.
Mais les Américains, par exemple, le modèle anglo-saxon de la gestion de l'altérité, c'est le multiculturalisme, en fait. On juxtapose, et l'individu a le droit d'exprimer sa différence culturelle dans les lieux publics, par exemple. On a le droit d'être, et même il est la communauté à laquelle elle appartient a des droits. La communauté culturelle, elle a le droit d'être reconnue. Par exemple, le calendrier interculturel qui est distribué au Québec, ils ont toutes les dates de toutes les fêtes, mais vraiment des choses auxquelles nous, on ne pense pas. La fête des hindous, je ne veux pas dire n'importe quoi, la fête de Krishna. Ils l'ont. C'est-à-dire que dans l'espace public, chacun a droit à sa culture. Mais ça, c'est Abdallah Pretzel qui le montre, c'est le multiculturalisme à ses limites aussi. Parce que ça ne veut pas dire... que parce que chaque communauté a effectivement le droit d'exprimer sa culture, qu'ils vont se rencontrer. Ils sont juxtaposés, mais ils sont pas en interaction forcément. Alors que l'interculturel, c'est le modèle justement pour dire il faut qu'il y ait une interaction. Donc je pense pas forcément, et il y a aussi la montée des communautarismes qui est le contraire de l'interculturalité. Donc ça pose aussi problème, ce modèle.
Enfin, il ne faut pas oublier que je crois qu'il y a 20% d'hispaniques aux États-Unis et que maintenant la langue espagnole, elle s'affiche partout. Dans des toilettes, on a laver vos mains, on l'a en anglais bien sûr, mais en espagnol. Et moi, ça m'a beaucoup surprise parce que même au nord, même à Chicago finalement, pas seulement dans les États du Sud.
Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'ils arrivent quand même à se rencontrer? Ça, c'est la question. Ouais. Ou est-ce qu'ils sont juste acceptés?
Je comprends la différence.
C'est ça,
ouais.
Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'ils aient plus la solution que nous, en fait. Je ne pense pas qu'il y ait... Ils ont un autre modèle, qui a ses limites aussi, en fait.
Oui, cela dit, ils se sont construits quand même par des migrations d'Europe. Donc, il n'y a pas vraiment l'Américain... il a peut-être existé l'Américain blanc, le white... comment on disait white. Le Saxon white protest.
White Anglo-Saxon
Anglo, protestant. Voilà. Mais c'est vrai que... ils sont tous, en fait, étrangers, quand même, à trois générations.
Il n'y a pas d'Américains d'origine, quoi. Si on a
les plats. Les Américains d'origine, c'était les Indiens.
Je dois partir. Merci beaucoup de tous ces échanges.
Merci.
J'ai rendez-vous à 8h.
Merci, Jean.
Bon, ça, est-ce que c'est le métissage aussi? On est tous quelque part métissés aussi. Est-ce que c'est qu'une culture pure aussi? On peut se poser la question. Qu'est-ce que c'est qu'un Gaulois, par exemple? On peut se poser la question. Il y a le mythe de...
La culture française,
ça n'existe pas.
C'est très, très récent. On vit sur des bases qui sont extrêmement neuves.
Oui, voilà.
La culture française, ça n'existe pas. On est dans un processus. la culture française d'aujourd'hui, elle ne va pas perdurer. Dans 20 ans, elle sera différente. Dans 50 ans, elle sera différente. Et dans 100 ans, elle sera complètement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. On est dans un continuum. On n'est pas dans quelque chose qui est statique et qu'il faut garder. Et l'intégration de tous les migrants, de toutes les vagues, ben, ça fait partie de ce développement culturel. Et c'est tant mieux. On en a profité depuis des siècles. Et ça va continuer. Il ne faut pas se dire, ah ben non, il faut qu'on reste entre blancs et cathos et puis... non, c'est pas possible. Il faut tirer profit de toutes les richesses qu'on a. Malheureusement, le discours politique est un petit peu ambigu parce qu'on dénonce sans arrêt les vagues d'immigrés, on dénonce sans arrêt, on caresse sur les gens dans le sens du poil, alors qu'il faudrait leur dire non, c'est très très bien qu'il y ait plein d'étrangers. Ça nous aide économiquement, ça nous aide culturellement.
Bonne soirée, messieurs dames. Merci beaucoup.
Merci.
Mais il y a un discours politique qui est absent parce qu'il y a des gens qui votent.
Ben oui, il y en a même qui sont qui prônent l'assimilation. Des gens qui reprônent l'assimilation, qui est l'effacement de la culture d'origine au profit de la. On a des discours politiques forts autour de ça, quoi. Quelque chose qu'on pensait qui avait disparu, mais qui revient, quoi. Ça, c'est sûr que c'est pas un contexte, l'interculturalité, c'est quelque chose qui va à l'encontre de certaines idéologies politiques qui reviennent, qui sont fortes, quoi. Donc c'est vrai que c'est dur, c'est un combat, c'est un.
Oui, c'est un combat vraiment de tous les jours. Il faut vraiment faire chacun l'effort d'aller vers l'autre, quel qu'il soit, pour faire en sorte que l'autre soit aussi accepté que moi et qu'on ait vraiment une égalité, une fraternité. C'est nécessaire pour notre vie citoyenne et sociale de tous les jours.
C'est sûr.
C'est compliqué.
L'attente n'est peut-être pas simplement à percevoir du côté du politique.
Non.
Peut-être aussi que sur les territoires, il y a aussi un certain nombre de choses qui sont, comment dire, qui vont particulariser l'intervention des. Je pense bien sûr, on a parlé des enseignants, mais bon, ce sont les responsables politiques, ce sont les travailleurs sociaux, tous ces professionnels qui, eux, ont une autre signification du territoire. Je crains qu'il y ait parfois un petit peu des choses qui soient un peu en contradiction, ou en tous les cas, pas achevées du tout, pas harmonisées du tout.
Oui, on voit bien qu'on a des migrants qui arrivent dans le département, il y a dans toutes les petites communes autour d'Angers, il y a toujours plein de bénévoles qui sont là, prêts à les aider, à les encourager, leur trouver un logement, leur donner des cours de français. Il y a, à la base associative, il y a plein de choses qui sont mises en œuvre pour les accueillir plus ou moins correctement quand on le peut. Donc, la base, le peuple fait son travail. Souvent.
Une partie. 9-3.
Mais il y a des situations critiques. Enfin, dans la banlieue parisienne, il y a des endroits qui sont pas vivables, simplement. Mais ce n'est pas le fait nécessairement des migrants, des étrangers. C'est le fait de Gaulois franco-français.
J'ai bien apprécié la définition que vous avez donnée de l'interculturalité. Je pense que ça ne va pas de soi. Il faudrait s'attendre quand même à ce qu'il y ait des facilitateurs de parole, des lieux de parole pour ça. Parce que apprendre de l'autre, je peux faire cet exercice pour moi-même. Alors, parfois, je suis un peu acculé et contraint, mais il me semble que des facilitateurs seraient peut-être quelque chose qui permettrait peut-être d'aller plus vite aussi.
Mais qu'est-ce que vous entendez par des facilitateurs, par exemple? Ça serait quoi?
Peut-être des lieux de parole.
Des lieux de parole?
Oui, peut-être des lieux de parole. Je pense, alors, à la fois, il y a les acteurs dont vous avez parlé, là, les instituts, l'école, des institutions qui sont là et qui entendent des paroles, des cultures différentes. Donc, je dirais que ces professionnels ont sûrement besoin d'être mis dans des situations où ils pourraient parler de ce qui s'est passé, de leur ressenti, de leur, dans tous les sens d'ailleurs, positif et négatif. Mais je crois aussi à des lieux où la parole est peut-être un petit peu plus spontanée. Je pense aux des structures de type maison de quartier, où il y a de la rencontre
interculturelle.
Ouais, c'est vrai. Qui est un peu livrée à elle-même. Alors, ces moments assez informels où des cultures sont en contact, on va dire, je trouve qu'on n'en fait pas.
Oui,
on n'en fait
juste.
Rien.
Je suis d'accord.
Je vous entendais parler de l'interculturalité qui devait changer chacun, qui devait interroger chacun. Faut-il encore quand même qu'on amorce cette chose?
Oui, des facilitateurs, quoi.
Facilitateurs.
Mais cette causerie, moi, où j'ai assisté il y a 3 ans avec vous, moi, j'ai vraiment vécu un moment interculturel. C'est aussi M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. L'interculturel, c'était là. On la vivait, l'interculturalité, dans ce moment de causerie. On y était. Et oui, c'est vrai. C'est des choses peut-être simples aussi, l'interculturalité. C'est ça, c'est aussi de... Mais là où c'est plus compliqué, c'est de le mettre en œuvre, comme disait Yves, à l'école. Parce qu'on a fait souvent, pendant longtemps, de la pédagogie couscous. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la pédagogie couscous, parle-moi de toi, tu es migrant, tu vas me présenter ta culture, mais moi, je donnais rien de moi. Et ça, ça ne marche pas. Il faut que ce soit un échange, il faut que ce soit une véritable rencontre. Il faut que toi, tu me donnes, mais moi aussi, je te donne de moi. Parce que sinon, ça ne marche que dans un sens, et ça enferme, ça fige, c'est des stéréotypes, de nouveau. Voilà, je ne dis pas... On a fait ça pendant longtemps, c'est pas... Je pense que c'était comme ça, parce qu'on ne savait pas non plus, et c'était mieux de faire ça. Un étudiant m'a dit une fois, c'était mieux de faire ça que de rien faire. C'est vrai, quelque part.
Vous vouliez dire par là que la démarche bienveillante ne suffit pas.
Ah ben ça, c'était encore les postures angéliques, où alors là, c'est carrément le déni de la différence. C'était de dire, on a tous deux yeux, une bouche, un nez, on va tous s'aimer, on est tous frères et sœurs. C'est totalement aussi, là, c'est pas constructif non plus. On peut rien construire par rapport à ça. On a été dans cette posture-là, à un moment donné, ben, on nie les différences, quoi. Ben, tu es comme moi, donc je t'accepte, mais ça c'est... Et moi, je trouve que c'est intéressant aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, La Cour de Babel, de Bertuccelli, de Julie Bertuccelli. C'est un film qui est magnifique. Et les élèves, eux, ils sont en situation d'interculturalité. Et l'interculturalité, c'est aussi accepter des fois que ça ne se passe pas bien, quoi, de passer par le conflit. Ça, c'est Dervin. Il y a plein de gens qui disent que... Et c'est dur, ça aussi, d'accepter que ben, si je rencontre quelqu'un, il va y avoir aussi des tensions. Et ça, il faut accepter aussi. Il y a beaucoup de profs qui se disent « Ah là là, mon Dieu, j'ai pas envie, c'est terrain glissant, où ça va me mener ?» C'est ça aussi qui est dommage, mais voilà, c'est pas évident, quoi. On est dans le savoir-être, on l'a dit, hein, on n'est pas, et c'est pas évaluable. Et voilà, mais dans ce film-là, il y a un moment donné, ils se disputent, quoi. Après, ils vont au-delà de ça, il faut pas rester sur le conflit, mais ils surmontent ça, mais à un moment donné, ça chauffe, hein. C'est Salam Aleikoum. Il y a une étude d'une petite malienne qui dit dans mon pays on dit salam aleikoum, et il y a une libyenne qui dit ah ben non, tu dis pas salam aleikoum c'est moi, tu n'es pas musulmane, tu n'as pas le droit de dire salam aleikoum. Et donc il y a un conflit entre les deux, elles se disputent, ben si j'ai le droit parce que je te dis qu'on le dit, moi je le dis, j'ai appris ça comme ça, c'est pour dire toc toc bonjour. Et donc ça chauffe, quoi. Après ça va mieux, mais ça chauffe. Donc je trouve ce film très beau parce qu'il montre justement que voilà, ça il y a des choses qui se passent, quoi. Mais voilà, comment on peut construire ça, je sais pas. Moi je pense que c'est un enjeu un enjeu essentiel là, de l'école à venir, quoi.
Moi je crois que finalement on reste un être, dans ces situations de migration, on reste un être déchiré, finalement, entre le pays où on est arrivé et puis son pays d'origine. Et c'est une autre génération qui se sentira mieux, finalement. Et je pense au livre d'Alice Zeniter, L'art de perdre. Elle raconte quand même, en fait, sur 3 générations, hein, leur départ d'Algérie pour venir en France. Et c'est pas les parents, hein, qui ont été heureux, finalement. La souffrance a été sur leurs épaules. Et c'est plus leurs enfants et petits-enfants qui vont s'adapter. C'est un peu malheureux. de dire ça, mais c'est ce que je vois, quoi.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette réflexion autour de, puisqu'on est dans une maison de quartier, en quoi le fait d'acquérir plus ou moins facilement, plus ou moins dans de bonnes ou de mauvaises conditions, une nouvelle langue, va façonner nos rapports sociaux, va façonner la manière dont on va se sociabiliser, je pense à l'enfant, et puis après, quelle influence ça va avoir sur nos rapports sociaux. Le fait d'avoir acquis cette nouvelle langue du pays dans lequel finalement je vais rester vivre, en quoi ça va venir faciliter ou compliquer ou complexifier les rapports sociaux que je vais avoir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose là-dessus, des recherches.
Bah, moi, je ne sais pas, je pense aux jeunes filles marocaines ou algériennes qui sont au lycée avec les garçons. Et si elles sortent après avec des garçons, ça pose problème quand même. Donc,
Je pose aussi la question parce qu'on a eu une causerie avec le groupe Aptira, donc qui apprend français. C'est avec des adultes, hein, et pas d'enfants, mais même chez les adultes, il y a plusieurs générations aussi, et deux, voire trois, je sais pas. Voir l'écart d'âge qu'il y avait. Et c'est vrai qu'on... Enfin, moi, on ressent quand même que, au-delà de la personnalité que peut avoir la personne, la manière dont elle va acquérir le français va influer sur la manière dont elle va entrer en contact avec les autres, dans la société dans laquelle elle va vivre. Hein. Je pense à la jeune turque, jeune femme turque, qui a une personnalité, on le sent, même sans maîtriser le français complètement, a une personnalité un peu à la limite de l'exubérance, quoi. Elle parle facilement, elle s'exprime, enfin, une volonté de s'exprimer est très forte. Et puis, à côté d'elle, il y avait quelqu'un de sa génération qui, à peu près au même niveau de français, mais qui, voilà, on sait que ce sera plus complexe. Et je me demandais si... le fait d'acquérir plus ou moins facilement le français va changer quelque chose à ça, dans le rapport qu'elle aura dans ses rapports sociaux.
Oui. De cette situation, moi, il y a une variable individuelle, psychologique,
oui, bien sûr.
On va l'écarter. Je crois que chacune des femmes, chacune avait des enjeux différents. C'était lié sans doute à leur situation familiale, à leur âge, au nombre d'années qu'elles résident en France, etc. Donc je crois que la variation des enjeux était quand même aussi à repérer. Et puis, par ailleurs, je trouvais qu'il y avait... Alors, ça fait que certains peuvent... parce qu'ils sont plutôt en train de régler une question au niveau des papiers, au niveau de trouver un emploi, et de maîtriser suffisamment le français, etc. Certains ont aussi peut-être des enjeux par rapport à leurs propres enfants. Je remarquais bien aussi que pour certaines, elles apprenaient la langue française, elles venaient là depuis des années. C'est-à-dire qu'elles profitaient de la situation pour faire perdurer leur culture. C'est-à-dire qu'elles étaient très contentes de se retrouver. On était là sur un cours de français. Mais bavarder. Alors évidemment, elles bavardent dans leur langue à ce moment-là. Donc on voit bien qu'elles font perdurer sans doute un élément de leur culture que peut-être elles sentent menacées par ailleurs. Donc il y a un peu une double fonction dans ce groupe qui existe. Oui. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Mm-hmm. Parce que d'en parler avec elle, d'en parler avec ses responsables qui sont là. Parce que je trouve que c'est aussi là que quand on parlait d'interculturalité, qu'on peut s'interroger sur mais qu'est-ce que je fais ? Ces femmes que je vois plutôt essayer de sauvegarder leur culture, est-ce que ça peut pas me renvoyer à ma responsabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut travailler sur d'autres manières d'apporter le français à des populations qui elles-mêmes sont c'est la perte dont tu parlais d'ailleurs, hein. Mm-hmm. Qui sont peut-être en train de perdre quelque chose. Et donc oui, je trouve que c'est vraiment des éléments, mm-hmm, qui vraisemblablement pourraient enrichir. Alors, je ne sais pas ce que ça donne comme pratique derrière, mais en, mm-hmm, tous les cas, sûrement que si on en parle suffisamment, on ne va pas agir exactement pareil demain matin.
Tu penses à des leviers qui seraient donc utilisés avec des enfants?
Alors oui, je pense. Parce que je pense que ça peut se transformer, enfin se traduire ou se retrouver dans d'autres situations avec d'autres publics.
Je suis d'accord avec toi sur les enjeux et le fait que les apprenantes qui étaient là l'autre jour en avaient plus ou moins conscience. Mmh. Tu dis c'est j'en prends le français pour les papiers, pour le travail ensuite, etc. Quoi. Sauf que les enfants, les jeunes adolescents n'ont pas forcément conscience de ces enjeux-là.
Ah oui.
Le fait de devoir apprendre le français leur est imposé, comme d'être venu là d'ailleurs. Tu vois. Et ma question, elle est plutôt dans ce sens-là, quoi. C'est d'une part, c'est imposé. Le fait que ça va bien se passer ou pas, est-ce que ça aura une influence sur les rapports qu'ils vont avoir plus tard dans la société dans laquelle ils vont vivre?
Ah oui, d'accord.
Voilà. Effectivement, et peut-être aussi dans la prise de conscience des enjeux que ça va représenter après.
Oui, c'est ça. Tu dis, tu n'as pas d'accompagnement forcément de saisir quels sont les enjeux que qui te retombent dessus quand tu apprends une langue. Quoi.
Voilà.
Moi, je me mettais dans la position même un peu inverse. Quand on va à l'étranger et qu'on ne maîtrise pas une langue, on se sent soi-même dans une incapacité de communiquer avec les autres et de pouvoir échanger sur des choses qui nous intéressent ou qui nous permettraient de mieux connaître les gens. Donc automatiquement, on se referme sur soi-même. Donc je pense qu'effectivement, des gens qui arrivent sur notre territoire, et encore plus peut-être des jeunes qui, eux, se retrouvent... Enfin, je trouve que l'idée, en plus, de ne pas l'avoir choisi, parce qu'eux, ils ont suivi, et de ne pas connaître les codes, en plus, d'une autre culture, c'est encore plus compliqué si on ne prend pas le temps de trouver des moments où on peut travailler sur cette connaissance-là et sur cette analyse-là, quoi.
Mm-hmm. Mais il faut voir la langue française, si on est immigrant en France, comme un enrichissement. Et la langue française ne vient pas remplacer la langue et la culture d'origine. Il faut la voir comme un plus, comme quelque chose qui est un avantage. Il faut avoir un discours auprès des enfants pour leur dire, tu as la chance d'être en France, peut-être pendant 3 ans, peut-être pendant 5 ans, peut-être pendant 10 ans, et puis peut-être après, dans 10 ans, on ne sait pas ce qui se passera, peut-être que tu iras ailleurs encore. Mais ce que tu fais ici, ça t'enrichit dans tes compétences, dans ton identité personnelle également. Il faut le voir comme quelque chose de positif. Il faut tenir un discours qui est positif.
Alors, est-ce qu'on prend le temps de le faire, ça?
Ah non, évidemment, non.
J'en suis pas.
Non, jamais.
Non, c'est ça, ouais.
Non.
Bah, disons qu'effectivement, dans des familles, j'allais dire culturellement, qui ont vraiment choisi de bouger, etc., je pense que cet accompagnement est fait dans les familles, mais pas forcément dans des gens qui sont plutôt...
Les gens qui subissent complètement leur migration, ils n'ont pas le discours.
Oui, puis quand tu es en difficulté à l'école, que tu te ramasses des mauvaises notes, que tu ne comprends rien, c'est difficile de te projeter, de te dire, on serait pareil, de se projeter en disant, ça va être un enrichissement tout de suite. Ça n'allait pas pour le moment. Pour le moment, c'est une galère. Quoi. Et comment je vais faire, moi, pour me sortir de ça? C'est cette situation de submersion, là, de difficulté extrême qui fait que je n'arrive pas, et c'est normal, quoi. Et oui, mais c'est vrai que c'est un enrichissement, mais pas tout de suite, quoi. En tout cas, là, il y a tellement de difficultés que Et l'école me met dans cette difficulté. Donc comment je fais, moi, pour sortir de ça ? Et après, l'école, elle me renvoie aussi à des choses... voilà, moi, je voudrais faire ça, et l'école dit non. Donc ça crée plutôt du ressentiment, après. Oui, évidemment que ça va créer du ressentiment. Et c'est là où...
Là, c'est là où
il va y avoir le problème. C'est là où la société va être confrontée à un problème. Elle ne comprend pas la société non plus, qu'elle va créer aussi des gens qui vont... tu ne m'as pas accepté, mais tu vas avoir le retour de bâton aussi. C'est, ça, c'est évident. Si tu ne m'acceptes pas, mon identité, elle est là. Et elle va s'exprimer à un moment ou à un autre. Et si tu ne laisses pas la place à mon identité et à ma culture, ça va... Oui, ça peut mal se passer après. Pour moi, c'est une évidence, ouais. Et il y a des enfants qui peuvent avoir de la rage, ouais.
La haine.
Et l'institution scolaire n'a ni le temps, ni les moyens, parce qu'en face, il y a du nombre, je ne sais pas.
Parce qu'il
faut prendre du temps.
Il faut le temps, mais il faut aussi, dans l'institution scolaire, apporter la formation.
Il faut
poser les questions. Je comprends que ça ne vienne pas comme ça à ce moment-là.
Non, c'est sûr.
En vous écoutant, je repense à la situation d'un gamin dans un collège d'Angers qui se retrouve mis à la porte. Un gamin, je ne sais plus, c'était bosniaque, je crois. Le seul bosniaque dans le collège. En conflit énorme avec le prof d'anglais. Le prof d'anglais n'en peut plus. Elle ne pense qu'à le virer depuis des mois. C'est ce qui finit par se faire. Le directeur du collège va le virer. Alors, par chance, ils ont un levier qui n'est pas complètement subtil. On a été un peu plus réfléchi. Lorsqu'un gamin est viré du collège, il y a la maison de quartier peut l'accueillir. Il est viré pendant 3 jours, au lieu qu'il reste à traîner, je sais pas où, il peut aller à la maison de quartier. C'est convenu avec la direction de la maison de quartier. Il se fait que moi j'interviens juste ce jour-là sur l'interculturel. Une quinzaine de femmes autour de la table, on a l'habitude de se rencontrer. Je ne sais pas ce qu'il va se dire, c'est habituel. Quoi. Et puis il y a ce garçon qui est là, dans le tour de table. Donc tout le monde dit, on se présente, etc. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être ce nouveau lieu, peut-être c'est un visage nouveau aussi, j'essaie de lui dire, bon, ça, je crois que tu étais là pour que ça ne s'est pas bien passé, ou je tends la perche, et le gamin commence à nous dire que il est bosniaque, que, alors je l'interroge un petit peu sur sa langue, et je commence s'il parle sa langue à la maison, et en fait jamais on l'a reconnu comme bosniaque dans cette école. Sa langue est une langue, il ne parle jamais. Mm-hmm. Il ne peut. Alors, évidemment, quand on lui file de l'anglais, c'est sans doute un peu une agression qui lui est faite, parce que quelque part, il a cette compétence de parler une langue étrangère, et on veut la gommer. Donc, je le sentais mal, le gamin, je le sentais très, très mal. Alors, bon, par chance, il y avait cette bonne idée qu'a eu ce directeur de collège, qu'il aille dans un lieu où il y a justement beaucoup de personnes étrangères. Ça fait qu'on a pu en parler. On n'est pas là pour faire ça. Mais suffisamment, sans doute, pour qu'il ait compris qu'il y a un signe, qu'on l'a remarqué, qu'il n'est plus cet étranger au collège. C'est ça ce que j'appelle aussi. Je crois aussi que toutes ces personnes qui sont des adultes, qui étaient autour de la table, sont rentrées un peu dans la compréhension de ces gamins. Là, il y a quelque chose qui se passe qui vraisemblablement change tout le monde.
Et une rencontre.
Ah oui, une histoire de la rencontre.
Une rencontre.
Ça a été une rencontre. un échange avec lui. Mais il s'est posé sur une chaise, il a parlé de lui, et vous l'avez écouté.
Il venait là quasiment en punition. Et ben, je ne sais pas comment on peut vivre cette chose-là. Je pense que c'était... Ils en parlent, mais quand même, c'est bizarre, ce gamin exclu du collège pendant 3 jours, qui va se retrouver dans la maison de quartier. Bon, peut-être que c'est bien. Mais en tous les cas, il venait faire sa punition. Et il s'est passé autre chose.
Bah, tant mieux.
Donc, c'est un peu
à retenir, en tout cas. Nicolas fait ça depuis tout à l'heure. Cette idée d'accueil d'un enfant exclu momentanément.
Oui. Vous allez chercher tous les exclus.
Les chercher, non. Mais en parler aux responsables du collège, de ça. Alors, voir qu'est-ce qu'il peut se construire à partir de ça. Ne pas rester sur cet aspect négatif de l'exclusion.
Oui, tout à fait. Oui.
Là où je m'étais interrogé, je me suis dit, oh là là, la maison de quartier qui doivent obéir à vraiment d'autres règles qui sont pas les règles de l'école, si elle devient l'annexe du collège, est-ce que ça ne va pas finalement, c'est une espèce de totalité, c'est difficile à supporter, quoi. Bon, l'espace de respiration, c'est important quand même. Mais bon, en tous les cas, c'est, je pense que c'était fait adroitement, et bon. Mais oui.
Il est 20h. On avait prévu environ 1h30 pour la table ronde. Voilà, il y a aussi une histoire de train. Voilà, donc comme vous le souhaitez, on peut poursuivre, on peut s'arrêter, on peut.
Merci pour cette soirée.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
C'est fort intéressant.
Oui, c'était très chouette.
En tout cas, comme on l'a fait avec Delphine, on se permettra peut-être dans une autre édition ou pour un autre sujet de revenir vers vous, ou alors toujours dans sur la didactique des langues, ça peut être vraiment, si vous en êtes d'accord.
De la langue, on évite de passer à l'interculturalité.
Oui. C'est un fil qu'on ne va pas tirer.
Ça va faire l'un sans l'autre.
Oui, il l'avait expliqué. Mais je pensais déjà que par rapport à nous-mêmes, s'ouvrir à une autre langue, on pouvait aussi discuter de ce sujet-là. Qu'est-ce que ça voulait dire et comment nous, on se projetait. Moi, je venais dans cet esprit-là, mais ceci dit, je trouve ça intéressant d'avoir entendu échanger.
Peut-être que le problème qui a été soulevé est crucial, finalement. L'apprentissage de langue par des jeunes qui arrivent dans des conditions difficiles.
Qui n'ont pas choisi.
Oui. Mais c'est deux choses très différentes là. Hein. Les langues, comment on les ressent et ce fait.
Mais c'est ce que je vous dis, c'est le FLE, le FLS, quoi. C'est un peu la différence, quoi. Le FLE, j'apprends une langue pour le plaisir. Voilà. Et qu'est-ce que ça me fait? Oui, ça me change aussi, mais les enjeux ne sont pas pareils, quoi. J'apprends comme je veux.
Mais comment on peut rejoindre avec cette difficulté minime qu'on peut vivre?
Ah oui, bien sûr.
C'est quand même un minimum qu'on peut. Quand on s'ouvre à une langue étrangère, on a quand même un peu de difficulté, enfin voilà, à avancer. Et on
bien
peut
sûr.
Multiplier par 100.
Bien sûr.
Un peu multiplier plus.
Je ne sais plus ce que j'allais dire.
Ça revient pas.
Excusez-moi.
Merci beaucoup. Merci. On va se quitter. Merci.
Merci.